bien camarades, la réunion du Cercle Léon Trotsky porte ce soir sur les méfaits de l'impérialisme français en Afrique. Mais je vous demande tout d'abord de bien vouloir éteindre les téléphones portables pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Alors, quand la France intervient en Afrique, figurez-vous qu'elle ne cherche pas à influer sur sa politique, encore moins à capter ses ressources. C'est tout du moins ce qu'a prétendu Hollande au dernier sommet franco-africain à Bamako. Après 2 siècles d'oppression, de colonisation, d'intervention militaire, de pillage, il fallait quand même oser. Pour reconnaître que Hollande n'a pas hésité à défendre l'impérialisme français en Afrique. Dès janvier 2013, il envoyait des soldats au Mali pour restaurer l'ordre dans la région du Sahel et en particulier au Niger où sont situées les mines d'uranium d'Areva. En décembre de la même année, c'était au tour de la Centrafrique d'être le terrain d'une nouvelle intervention militaire française. 4 ans plus tard, la Centrafrique sombre dans le chaos et les massacres ethniques se poursuivent. Ces interventions ont eu comme prétexte la guerre contre le terrorisme. En réalité, Hollande a fait en sorte que l'armée joue encore une fois le rôle de gendarme de l'ordre impérialiste en Afrique. Dans cette longue histoire des crimes commis contre les peuples colonisés, les dirigeants socialistes français ont assumé l'intégralité de l'héritage des massacreurs coloniaux, des Gallieni, des Lyautey. Au moment du Front populaire, en 1936, Blum refusa l'indépendance des colonies et fit même arrêter des militants nationalistes algériens comme les Saliad. Plus tard, Ramadier, un autre socialiste, a dirigé des gouvernements qui déclenchèrent la guerre en Indochine en 1946, puis organisèrent la répression sanglante de l'insurrection de Madagascar en 1947. Guy Mollet, encore un dirigeant socialiste, élu en 1956 avec le soutien des députés communistes, intensifia la guerre d'Algérie et couvrit les tortures de l'armée. Rappelons juste pour clore cette liste très partielle que sous Mitterrand, l'armée française eut sa part de responsabilité dans les génocides au Rwanda en 1994. Depuis plus d'un siècle et demi, l'armée française massacre en Afrique pour conquérir des territoires, les coloniser, opprimer des populations et piller les richesses du continent. Malgré les indépendances il y a presque 60 ans, la France a tout fait pour maintenir sa domination sur ses anciennes colonies, pour permettre que les Bouygues, les Bolloré et autres Areva continuent à s'enrichir sur le dos des populations africaines. Les gouvernements n'ont reculé devant aucune abjection. Intervention militaire et organisation de coups d'État d'un côté, corruption et aide aux dictatures de l'autre, ou en même temps, c'est ce qu'on a appelé la France-Afrique. Le dernier scandale connu de cette infamie est celui du fils du dictateur de Guinée équatoriale, Théodorin Obiang, accusé d'avoir volé 110 millions d'euros aux caisses de l'État pour se payer une quinzaine de voitures de luxe, des monceaux de bijoux, des costumes par centaines, un hôtel particulier avec une chambre de 100 mètres carrés. Et il n'est pas le seul, puisque dans cette affaire dite des biens mal acquis, Denis Sassou Nguesso, le président du Congo-Brazzaville, les héritiers du dictateur gabonais Omar Bongo, l'ex-président centrafricain François Bozizé sont aussi poursuivis. Leur point commun, être des alliés de la France et aider au pillage de leur pays par les trusts français avant de mettre les miettes restantes dans leur propre poche. Alors ce n'est pas un hasard si ce continent connaît la misère, les exactions, les guerres. Ce n'est pas dû à un prétendu retard de cycle de développement. Ce n'est pas parce que, comme a osé le dire Sarkozy en 2007, le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Argument qui lui permettait de dédouaner la bourgeoisie française en affirmant « La colonisation n'est pas responsable de toutes les difficultés actuelles de l'Afrique. Elle n'est pas responsable des guerres sanglantes que font les Africains entre eux. Elle n'est pas responsable des génocides. Elle n'est pas responsable des dictateurs. » Mais bien sûr que si, le drame de l'Afrique n'est pas d'être en dehors de l'histoire, mais d'avoir été au cœur de l'histoire du capitalisme. Le sang et la sueur de millions et de millions d'exploités d'Afrique ont permis à quelques riches puissances capitalistes d'édifier des fortunes énormes en Europe ou en Amérique. La pauvreté de l'Afrique et la misère de l'écrasante majorité de sa population ne sont ni naturelles ni une fatalité. Elles sont le résultat des siècles de pillage et de colonisation dans lesquels la bourgeoisie française a une responsabilité de premier plan. Aujourd'hui, après avoir accédé à l'indépendance, les pays africains continuent d'être dépendants de l'impérialisme et victimes de sa barbarie.
Et c'est sur ce sujet que je vais passer la parole à la camarade Geneviève Remringer.
En août dernier, Fillon s'exclamait : non, la France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord. La culture dont Fillon est si fier, ça a été en premier lieu la traite esclavagiste. C'est dans le bruit des chaînes et au fond des cailles des bateaux négriers que la population africaine est entrée en contact avec la culture de la bourgeoisie européenne. En fait, ces contacts avaient commencé avant. Dès le XVe siècle, des navigateurs, poussés par le vent puissant de l'avidité des marchands européens, longèrent les côtes africaines pour trouver un chemin vers les épices d'Orient. Ils voulaient court-circuiter les commerçants arabes. Et ils installèrent des comptoirs le long des littoraux africains. À l'époque, les royaumes africains, centrés depuis des siècles autour du commerce transsaharien, n'y ont sans doute vu que des piqûres de moustiques, sans importance, ne menaçant en rien leur société. Mais avec le temps, ces piqûres sont devenues des plaies béantes par lesquelles s'est répandu le venin capitaliste, gagnant peu à peu tout le continent. Et le pire était à venir. Avec la naissance aux Caraïbes, puis en Amérique, des plantations de sucre, les premières grandes entreprises dont la production visait un marché mondial, commença la traite des esclaves africains par les puissances maritimes européennes. Comme l'écrivit l'historien africain Kizerbo, ce fut le grand passage vers le tonneau sans fond du marché américain. Entre le XVIe siècle et la fin du XVIIIe siècle, les marchands européens déportèrent d'Afrique vers l'Amérique 15 millions de personnes pour les réduire en esclavage dans ces plantations. La traite européenne n'est comparable ni à la pratique de l'esclavage qui existait auparavant en Afrique, ni à la traite d'esclaves africains par les marchands arabes. Ce n'est pas une question de jugement moral, c'est une question d'échelle. Jamais l'esclavage n'avait atteint un niveau comparable, ni joué un rôle aussi décisif dans l'économie, sauf dans l'Antiquité et encore différemment. Grâce à ce commerce abject, dont l'apogée se situe au XVIIIe siècle, et qui pouvait rapporter des taux de profit de 800%, les marchands européens des ports comme Liverpool, Glasgow, Nantes ou Bordeaux acquirent leurs immenses richesses. Et les États européens, à coup de monopoles, de privilèges, d'exonérations de taxes, apportèrent protection et subvention à ce commerce. Toute l'économie en Europe fut irriguée par le sang des esclaves. Cela permit la multiplication des plantations, le commerce fructueux du sucre, le développement du commerce du thé, du café, mais aussi le développement des manufactures liées à l'armement des bateaux, la fabrication de fer, de clous, de chaînes, la fabrication de poils, de bois pour bateaux, de verroteries, tous s'enrichirent de ce commerce. La traite négrière et le travail des esclaves dans les plantations furent tout simplement les bases de la révolution industrielle en Europe et du capitalisme industriel. Au tournant du XIXe siècle, après avoir servi à alimenter la révolution industrielle grâce aux capitaux accumulés, l'esclavage perdit sa place prépondérante au sein de l'économie capitaliste. L'industrie qui se développait faisait naître de nouveaux besoins commerciaux. Alors, un commerce portant sur des produits africains remplaça les razzias qui visaient à arracher des hommes et des femmes à leur famille et à leur vie en Afrique et les livrer aux marchands de chair humaine. L'ivoire se vendait en Europe pour les touches de piano dans les salons bourgeois, les pommeaux des cannes, les boules de billard. L'huile de palme fut particulièrement recherchée. Elle pouvait servir de lubrifiant dans l'industrie et en 1852, un marchand marseillais, Victor Grésis, après avoir fait lui-même commerce d'êtres humains, assouta le brevet qui permettait de l'utiliser pour la fabrication du savon de Marseille. Dans la région qui devint par la suite le Sénégal, des commerçants bordelais cette fois, Morel et Prom, se mirent à exporter une amande utilisée dans l'alimentation locale, l'arachide, pour en faire de l'huile. Ce commerce restait ce qu'on appelle une économie de traite, c'est-à-dire un pillage des richesses africaines, car en échange de ce qui intéressait les Européens, les Africains recevaient toujours des produits européens de pacotille, au mieux des fusils. Parfois, les mêmes hommes étaient passés de l'un à l'autre de ces commerces. Mais au XIXe siècle, le système économique capitaliste était aussi en train d'évoluer dans un sens monopolistique. Les banques, comme les entreprises industrielles, avaient connu un processus de concentration tel qu'elles formaient désormais des monopoles financiers, qui avaient besoin de conquérir le monde pour placer leurs capitaux, trouver des matières premières et des marchés pour leurs produits manufacturés. Le capitalisme devenu monopolistique, l'impérialisme, entraînait donc les différents États européens à se lancer dans une course effrénée pour créer des chasses gardées en multipliant les conquêtes coloniales. À la fin du XIXe siècle, les tensions montaient donc entre les impérialistes rivaux en Afrique. En 1884-1885, le chancelier allemand Bismarck organisa une conférence internationale à Berlin pour régler ces problèmes. Il tentait ainsi de prendre sa place dans le brigandage colonial en essayant de rattraper le retard pris par son pays. À cette conférence, les grandes puissances établirent les règles du partage de l'Afrique. Pour prendre possession d'un territoire, il fallait occuper le littoral, mais aussi l'intérieur de ce territoire, décidèrent-elles. Une des règles importantes instaurées à Berlin fit que les limites des colonies seraient définies en fonction des points de rencontre sur le terrain des corps expéditionnaires des grandes puissances. Le signal de départ de la purée sur l'Afrique était donc donné. En 20 ans, tout le continent, à l'exception de l'Éthiopie, fut occupé. Les expéditions militaires lancées dans une course folle rivalisèrent de cruauté pour s'approprier le maximum de territoire. Les armées impérialistes commencèrent par faire la guerre au royaume africain. À partir de 1882, les militaires français se heurtèrent à l'armée de Samori Touré, chef militaire d'un véritable empire en Afrique de l'Ouest. Ils ne purent soumettre la région qu'en 1898, après avoir capturé Samori Touré et l'envoyé en déportation dans l'actuel Gabon. Après leur victoire, les armées coloniales continuèrent à user de la terreur contre des populations dont la résistance ne faiblissait pas. L'histoire de ces conquêtes déborde d'atrocités en tout genre. En Afrique de l'Ouest, en 1899, une mission partit du Sénégal pour rejoindre le lac Tchad, au centre du continent. Les deux officiers qui la dirigeaient, Chanoine et Boulet, étaient chargés d'aller le plus vite possible pour damer le pont à la Grande-Bretagne et arriver à unifier les colonies françaises du Sénégal à l'Algérie et au Congo. La mission devint une véritable colonne infernale, massacrant les populations qui osaient refuser de leur fournir vivres et porteurs. Des villages entiers, de milliers de personnes furent détruits. Certains de ces officiers sombrèrent dans la folie, mais la France obtint son empire. La conquête donna lieu à de nombreux incidents entre puissances impérialistes. Le partage et le tracé des frontières séparant leurs empires furent le résultat de rapports de force et de marchandages dans les capitales européennes. En 1898, les armées françaises et britanniques se retrouvèrent face à face à Fashoda, au sud du Soudan. De cette confrontation dépendait la domination du pays, du Soudan. Les Britanniques chassèrent les Français et dans les capitales impérialistes, on sut bien que l'heure de la guerre européenne avait sonné. Mais leur horloge avançait de 16 années encore. Au début du XXe siècle, chaque grande puissance pouvait donc désormais torturer, tuer, exploiter et piller dans ses colonies sans être dérangée par la présence de ses rivales. La prétendue œuvre civilisatrice de la colonisation débutait. En fait, c'est l'exploitation de l'Afrique qui se poursuivait. Les compagnies commerciales purent profiter de situations de monopole dans les colonies pour continuer leur commerce de traite. Mais à cela s'ajouta un système basé sur le pillage direct des richesses naturelles et l'exploitation brutale de la force de travail. Un des exemples les plus infâmes de cette économie coloniale est celui du Congo, colonie privée de Léopold II, roi des Belges. En 1900, l'ivoire et le caoutchouc représentaient 95% des exportations congolaises. Des compagnies privées reçurent des concessions sur des territoires immenses dans lesquels elles avaient un pouvoir absolu. Et la main-d'œuvre était fournie directement et gratuitement par l'administration coloniale. La collecte, longue et très difficile, du caoutchouc naturel, devenu indispensable à l'industrie automobile en développement, engendra le martyre des populations congolaises. Pour obtenir les quantités souhaitées, les femmes étaient retenues en otage pendant que les hommes partaient récolter en forêt. En cas de livraison insuffisante de caoutchouc, la règle d'usage imposait aux soldats de tuer les coupables avant de leur couper la main qu'on rapportait pour prouver qu'on avait bien puni les ressortissants du village rebelle. Mais la barbarie de la colonisation n'est pas une spécificité congolaise, ou plutôt belge. Partout, le même genre de sévices et de méthodes furent appliquées. Les compagnies privées cherchaient des profits records le plus vite possible. En même temps, elles refusaient d'investir des capitaux. Alors, seule une exploitation forcenée, plus brutale encore qu'en Europe, pouvait engendrer les profits escomptés. L'Afrique équatoriale fut transformée en un immense camp de concentration, sans miradors et barbelés, certes, mais où la population était soumise à la férocité et aux caprices de militaires, administrateurs et agents des compagnies. Les populations payèrent très cher la colonisation. Alors que l'anti-esclavagisme avait souvent servi de prétexte à la conquête, l'administration coloniale imposa partout son retour, sous la forme du travail forcé, du portage et des corvées. Le travail forcé a été une des grandes institutions de la colonisation. Tout ce qui fut construit le fut à travers ce travail forcé et le portage à dos d'hommes et de femmes. L'historien Suré Canal rapporte les propos d'un témoin présent en Ubangi-sur-Lie, c'est l'actuel sud-est de la Centrafrique, en 1906. Je le cite. Les conditions étaient dures. Des charges de 30 kg, des étapes de 25 km, pour un salaire de 1 franc, et encore, quand on disposait de quoi le payer et quand on voulait bien le payer. Les transports allaient toujours s'intensifiant. Le portage finit par rebuter les meilleures volontés. Je cite le témoin en 1906. Aucune nourriture n'était prévue et la plupart des porteurs, gens imprévoyants, devaient couvrir leurs 80 ou 100 km tiraillés par la faim. Plus tard, on en viendra jusqu'à retenir leur maigre salaire pour le verser à l'impôt du village. Ceux qui étaient réquisitionnés étaient obligés de délaisser leur propre sang. Et en plus de tout cela, l'administration coloniale inventa l'impôt personnel pour obliger les populations soit à le payer en nature, en caoutchouc en fait, soit à vendre une partie de leur production pour obtenir l'argent nécessaire pour acquitter cet impôt. Du fait de l'ensemble de cette exploitation, des famines décimèrent les populations. Au Congo-Brazzaville, la moitié de la population disparut entre 1898 et 1912. Les révoltes et insurrections contre la colonisation ne cessèrent jamais, même s'il n'y en a pas de traces dans nos livres d'histoire. En Côte d'Ivoire, les Abé, un peuple vivant au nord d'Abidjan, organisèrent une véritable insurrection. Ils coupèrent la voie de chemin de fer en construction le 6 février 1910, en 25 points sur moins de 20 km. Personne ne s'y attendait. Pourtant, la veille, tous les employés de Abé avaient disparu des maisons où ils travaillaient. La répression s'étendit sur 2 mois. Les villages pris sont brûlés. Pas de pitié pour les prisonniers. Les têtes coupées sont plantées sur des piquets en face des gares ou devant les cases des villages, raconte le journal La Dépêche de Côte d'Ivoire du 25 mars 1910. La colonisation enrichissait donc les capitalistes européens. C'est pourquoi durant toute la première moitié du XXe siècle, les grandes puissances impérialistes sont livrées à une lutte acharnée pour la possession des colonies. La Première Guerre mondiale a été le fruit direct de cet affrontement pour un repartage du monde. Et l'Afrique paya un lourd tribut à cette guerre, en morts, en travail forcé, en accentuation de l'exploitation des matières premières. Dans la période de l'entre-deux-guerres, le développement important des cultures obligatoires vouées à l'exportation donna une nouvelle forme à l'exploitation coloniale. À partir des années 1830, la moitié des terres agricoles du Sénégal étaient utilisées pour l'arachide. Au Cameroun, comme l'a écrit dans son livre « Afin que nul n'oublie », l'instituteur communiste Gaston Donna, donc je le cite, « Dans les années 1940, les villageois étaient désignés par les chefs traditionnels sur ordre des administrateurs coloniaux pour être déportés vers les plantations, cordes au cou et encadrés par des miliciens. Installés dans des baraquements, retenus prisonniers par des clôtures et toujours surveillés par des gardes armés, nombre d'entre eux ne sortirent jamais de ces plantations. À Haute-Volta, devenue aujourd'hui le Burkina Faso, l'administration coloniale française instaura en 1926 le champ de coton obligatoire, 4 hectares pour 100 habitants. L'objectif de production de 18 000 tonnes de coton ne fut jamais atteint, car les populations préférèrent fuir que de se soumettre à cet esclavage. On estime que pour échapper aux champs de coton obligatoires et au travail forcé pour la construction des routes, 220 000 personnes fuirent vers la colonie britannique du Ghana, à l'époque on disait Gold Coast, qui était la colonie à côté. Un peu partout sur les continents, les paysans durent produire et vendre pour le marché mondial. Partout, ils furent contraints d'abandonner les cultures vivrières servant à nourrir les populations locales pour finir par acheter leur nourriture aux mêmes capitalistes à qui ils vendaient leurs récoltes. Et les métropoles se gardèrent bien de développer un tant soit peu l'industrie des colonies. Dans toute la période de la colonisation, la fonction de l'Afrique resta, pour l'impérialisme français, celle d'un pourvoyeur de matières premières et de travail humain gratuit. Il est remarquable que même la construction de chemins de fer, pourtant indispensable aux exportations, fut très restreinte et uniquement le fruit de capitaux publics. Et à quel prix humain ? Les 500 km du chemin de fer Congo-Océan coûtèrent la vie à 20 000 personnes entre 1924 et 1931. 130 000 avaient été recrutés de force par l'administration, qui organisa de véritables chasses à l'homme pour fournir une main-d'œuvre à la société de construction des chemins de fer. Les conditions de travail et de vie étaient épouvantables. Tout était porté à dos d'hommes et de femmes. Pas de machines quand le travailleur ne coûtait rien. Une alimentation insuffisante, pas de soins. Les coups de sticotte, le fouet colonial, comme seul argument. Ce qui faisait dire au journaliste Albert Londres, révolté par ce qu'il avait vu dans les colonies, que ce chemin de fer avait coûté un être humain par traverse. La colonisation permit aux capitalistes européens de se tailler des chefs gardés en Afrique et de façonner l'économie des colonies en fonction des besoins en matières premières des métropoles. La spécialisation dans un unique produit, la monoculture, fut imposée. La colonisation a donc abouti à la mise en place d'un système qui a rendu les économies africaines totalement dépendante du capitalisme mondial. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'oppression coloniale pesait lourdement sur les populations africaines. On l'a retrouvée dans tous les domaines de la vie sociale. En Afrique de l'Ouest, moins de 5% de la population était scolarisée en 1934. Et comme si cette discrimination ne suffisait pas, il faut ajouter que 9 fois moins de filles que de garçons pouvaient aller à l'école et apprendre que leurs ancêtres étaient des Gaulois. On comptait un médecin pour 10 000 personnes à Madagascar, un pour 36 000 au Cameroun, contre un pour 2 000 en France à la même époque. Pour décrire ce qu'elle a signifié pour les Africains, je vais citer un extrait du discours pour décrire ce que cette oppression a signifié pour les Africains. Je vais citer un extrait du discours de Patrice Lumumba, leader nationaliste congolais. Discours qu'il infligea au roi des Belges le jour de l'indépendance du Congo en 1960. Je cite. Nous avons connu le travail harassant exigé en échange de salaires qui ne nous permettait ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou de nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tout, non certes comme à un ami, mais parce que le vous honorable était réservé aux seuls blancs. Nous avons connu nos terres spoliées au nom de textes prétendument légaux. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes coulantes pour les noirs. Qu'un noir n'était admis ni dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins dits européens. Qu'un noir voyageait à même la coque des péniches au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères, ou les cassots où furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'une justice d'oppression et d'exploitation. Aux résistances acharnées contre les conquêtes, contre le travail forcé, contre la barbarie des armées coloniales qui ont marqué toute la période coloniale. Il faut ajouter les luttes ouvrières qui se développèrent dès le début du XXe siècle. Le mouvement ouvrier se développa dans les colonies, souvent au travers de militants européens qui se retrouvaient là et transmettaient leurs idées, leurs convictions, leurs expériences. Surtout à l'époque où ce mouvement ouvrier n'était pas encore gangréné par le chauvinisme et défendait encore des idées internationalistes. Et puis, la révolution bolchevique de 1917 proclama haut et fort son rejet de la domination coloniale, des oppressions nationales et l'aspiration pour des millions de travailleurs dans le monde de créer une société débarrassée de l'exploitation. Des échos de cet espoir parcoururent le monde entier. Comme dans toute l'histoire de la classe ouvrière, on peut dire qu'en Afrique aussi, au commencement, étaient les luttes. En 1920, il y eut la première grève des ouvriers du chemin de fer Dakar-Saint-Louis. En 1925, trois grévistes des chemins de fer du Dakar-Niger furent arrêtés. Une grève générale s'ensuivit. L'administration envoya la troupe, mais les soldats africains refusèrent de tirer et contraignirent à relâcher les prisonniers. En 1927, c'était au tour des employés de la poste de Dakar de se mettre en grève. Les travailleurs se battaient alors qu'ils ne se voyaient reconnaître aucun droit. En 1937, le Front populaire au pouvoir en France fit semblant d'autoriser les syndicats en Afrique. Mais en réalité, seuls ceux qui pouvaient prouver qu'ils savaient lire et écrire en français avaient le droit de se syndiquer. La Seconde Guerre mondiale montra de nouveau, comme la première, dans quels abîmes l'impérialisme pouvait plonger l'humanité pour la défense des profits capitalistes et pour le repartage des colonies. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les colonies ont été de nouveau pressurées pour produire pour la guerre. Des centaines de milliers d'hommes furent aussi enrôlés de force comme soldats par les puissances coloniales. Ils connurent les atrocités des combats. Mais le fait d'être jetés dans cette guerre leur permit aussi de réaliser les faiblesses de leur propre impérialisme. Pour tous ceux que la colonisation avait écrasés, de nouveaux horizons s'ouvraient et le sentiment anticolonial devenait une force explosive. Le temps des colonies s'achevait. La Seconde Guerre mondiale a été l'accélérateur du mouvement vers les indépendances. Mais les puissances coloniales, comme l'Angleterre ou la France, affaiblies par cette guerre, craignaient de perdre leur domination et ne voulaient rien céder. Il fallut que la planète soit profondément secouée par les révoltes puissantes des peuples coloniaux pour qu'elle s'y résigne. Ces révoltes des peuples coloniaux auraient pu remettre en cause tout l'ordre impérialiste. Mais il n'en fut rien du fait des politiques criminelles des partis communistes stalinisés. Déjà, le stalinisme avait dénaturé les mouvements communistes européens au point de leur faire abandonner la lutte anticoloniale au profit d'un soutien immonde à leur impérialisme. Les partis communistes européens n'avaient donc pas de politique à proposer aux opprimés des colonies. et le même stalinisme usa de tout son poids et de celui de l'URSS pour mettre les prolétaires des pays coloniaux à la remorque d'organisations nationalistes. Même dans les pays comme en Indochine, où la classe ouvrière prit toute sa place dans les luttes, elle ne put y jouer un rôle dirigeant. Les prolétariats des pays colonisés se virent contraints de laisser la direction des luttes à leur propre bourgeoisie, qui aspirait à diriger elle-même ses affaires sans rien changer à l'ordre social. L'État français fit tout son possible après-guerre pour empêcher la décolonisation. En 1944, animé par la volonté politique de sauver l'empire colonial français, de Gaulle avait prononcé un discours à Brazzaville. Il avait promis quelques avancées pour les populations colonisées par la France, mais il s'était bien gardé de parler de liberté ou d'autonomie. Le travail forcé n'avait même pas été aboli pendant la guerre. Le code de l'indigénat, qui réglementait les corvées, les impôts spéciaux et toutes les brimades coloniales, n'avaient pas été suspendus. Seuls quelques notables africains en avaient été dispensés. Les soldats africains qui avaient eu l'espoir que leur sacrifice serve à desserrer l'étau de l'oppression coloniale eurent vite fait de comprendre qu'il n'en était pas question. La plus célèbre des mutineries d'après-guerre de ces soldats fut celle du camp de Tiaroy au Sénégal en novembre 1944. Pour la première fois, les soldats africains revenus d'Europe, conscients de leur sacrifice et des mensonges du pouvoir colonial, réclamaient l'égalité avec les soldats français. La répression fit officiellement 35 morts. Aujourd'hui encore, les tombes anonymes de ces soldats sont fleuries régulièrement par la population. Mais de toute façon, l'empire colonial français était en train de s'écrouler sous le coup des révoltes. En mai 1945, les premières manifestations nationalistes à Sétif, en Algérie, furent écrasées par les bombardements de l'aviation française. Aviation que commandait le ministre de l'air du gouvernement de Gaulle de l'époque, un certain Charles Tillon, dirigeant du Parti communiste. En 1946, la guerre débutait en Indochine. La même année, la Syrie et le Liban s'émancipèrent de la France. En 1954, les militants du FLN d'Algérie entraient en guerre, alors que les Vietnamiens venaient de gagner les armes à la main leur propre indépendance. En 1956, des révoltes au Maroc et en Tunisie se finirent par l'octroi de l'indépendance. Dans les colonies françaises d'Afrique noire, le mécontentement et la haine de l'oppression coloniale n'étaient pas moindres qu'ailleurs. Les grèves et les mouvements de contestation qui traversaient les colonies étaient systématiquement réprimés. Au Cameroun, l'Union des populations camerounaises, l'UPC, dirigée par Ruben Niobé, leader syndicaliste du pays, réclamait l'indépendance totale et la réunification des Camerouns anglais et français. L'UPC fut interdite en 1955 et elle prit le maquis. L'armée française se lança alors, en même temps qu'en Algérie, dans ce qu'on peut appeler une autre guerre sans nom. Instauration de laissez-passer, érection de camps de regroupement, déportation des populations, bombardements aériens, exécutions publiques, exhibitions de têtes coupées, systématisation de la torture. Toutes ces techniques ont été utilisées à plus ou moins grande échelle au Cameroun au cours des années 1950 et 1960. Peut-on lire dans un livre récent intitulé « La guerre au Cameroun » et Ruben Niobé fut assassiné le 13 septembre 1958. La bourgeoisie française s'accrochait d'autant plus à ses colonies que les capitalistes firent leurs meilleures affaires en Afrique dans ces années d'après-guerre. Il faut dire que l'État s'était enfin résolu à investir dans les infrastructures. 211 milliards de francs entre 1947 et 1956, à comparer aux 28 milliards seulement investis par des capitalistes privés sur la même période. Alors, si la bourgeoisie française finit par accepter l'indépendance de ses colonies en Afrique, ce fut vraiment sous la menace des fusils dressés contre elle par les peuples colonisés. Ces dirigeants politiques, en particulier les socialistes, s'y étaient toujours refusés. Seul De Gaulle, un homme de la droite réactionnaire, put contraindre l'armée et les colons à ce tournant politique et économique. Pour préparer les indépendances, il mit en place en 1958 la communauté française, apportant une vague autonomie sans plus, et il organisa un référendum sur ce sujet dans les pays africains. Le RDA, Rassemblement démocratique africain, le grand parti des notables africains, autorisé seulement depuis 1946, soutint le projet de communauté française de De Gaulle, à l'exception d'un dirigeant, du Guinéen Sékou Touré, descendant de Samori Touré, qui osa répondre à De Gaulle en voyage pour faire accepter son projet. Je cite Sékou Touré : Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Nous ne renoncerons jamais à notre droit légitime et naturel à l'indépendance. La Guinée fut le seul pays à voter non au référendum et à devenir indépendante dès 1958. En 1960, 14 colonies françaises devinrent indépendantes en Afrique. Pour ces peuples ex-colonisés, c'était au moins la dignité retrouvée, même si ce n'était pas l'assurance d'une vie meilleure, plus libre et plus démocratique. Les indépendances donnèrent lieu à bien des désillusions, car la décolonisation décidée par la France ne fut qu'un ravalement de façade, et bien des aspects coloniaux furent maintenus après les indépendances. En effet, la France, devenue plus longtemps un impérialisme de second rang, ne pouvait compter sur sa seule puissance économique pour lutter contre les autres puissances impérialistes, alors que la décolonisation ouvrait la porte à la concurrence, y compris dans ses anciennes chasses gardées. La bourgeoisie française ne pouvait compter sur la seule force attractive de ses capitaux pour continuer à dominer cette région du monde. C'est pourquoi, pour conserver sa mainmise sur ses anciennes colonies, la France chercha à garder un contrôle direct sur ses nouveaux États indépendants et sur leur personnel politique. La bourgeoisie française appliquait le vieil adage « tout changer pour que rien ne change ». Les nouveaux États n'eurent droit qu'aux attributs extérieurs de la souveraineté, des drapeaux, des hymnes, des armées. Le ridicule alla jusqu'à copier ceux de la France dans les moindres détails. Ainsi, l'hymne de Côte d'Ivoire s'appelait l'Abidjanaise. Les uniformes des militaires et des gendarmes rappelaient à s'y méprendre ceux de l'ex-métropole. Et plus profondément, partout où cela fut possible, l'État français fabriqua de toutes pièces des appareils d'État tellement liés à celui de la métropole qu'il n'en était que des prolongements. Il commença par mettre à la tête de ces États indépendants des hommes qui avaient été ministres de la 4e République en France et qui faisaient partie du sérail politique français. En Côte d'Ivoire, Houphouët Boigny, président du syndicat des planteurs ivoiriens de café, devint président dictateur. Il avait été plusieurs fois député et même ministre délégué en 1956 dans le gouvernement de Guy Mollet, celui qui avait décidé d'envoyer les rappelés en Algérie. Léopold Sédar Senghor, agrégé de grammaire, fut aussi plusieurs fois ministre de la 4e République, avant de devenir le président du Sénégal indépendant. Ce qui n'empêcha pas De Gaulle d'avoir un homme à lui directement dans le gouvernement de Senghor, puisque Jean Collin, ancien administrateur colonial, devint ministre sénégalais. On l'appelait le vice-roi à Dakar. Et quand il quitta ses fonctions, en bon monarque, il donna sa succession à son fils, qui devint directeur de cabinet du ministre du Tourisme sénégalais. Quand ces hommes politiques n'existaient pas, faute d'avoir permis à suffisamment de petits bourgeois locaux d'accéder à un minimum d'éducation ou de fortune, des anciens militaires de l'armée coloniale française firent la paix. En Centrafrique, Foccart, l'homme de De Gaulle pour l'Afrique, estima que David Dacko, le premier président, ne ferait pas la paix. Il lui préféra Bokassa, ancien officier des troupes coloniales françaises, qui parvint au pouvoir par un coup d'État en 1965. En parallèle de ce coup d'État, Bizard, celui de la bataille d'Alger, entraînait l'armée centrafricaine. Et 500 cadres coloniaux français formèrent l'armature de l'administration du nouvel État. Bokassa mit le pays en coupe réglée, se fut proclamé empereur en décembre 1977. Il devint aussi un grand ami de Giscard d'Estaing, avec lequel il chassait le gros gibier et auquel il offrit les fameux diamants. Ainsi, le pouvoir gaulliste créa bien des dictatures en Afrique. Et pour pouvoir les contrôler, Focard construisit ce que plus tard on nomma les réseaux de la France-Afrique. Ces réseaux mafieux tissaient des liens étroits entre des hauts fonctionnaires français, des dirigeants politiques de la bourgeoisie française, mais aussi des hommes de main, des mercenaires et les dictateurs africains. Tout ce beau monde finit par ne former qu'une seule et même famille. Ces liens sont faits de corruption, de trafic en tout genre, de pression, d'assassinat. Et quand cela ne suffit pas, les coups d'État et les interventions militaires viennent renforcer les échafaudages. Chacun y a trouvé son compte. Les nouveaux monarques d'Afrique ont gagné une protection et l'impérialisme français des commandes, des marchés et le maintien de sa zone d'influence. Ces dictateurs africains ont pu, sous la protection de l'armée française, piller une petite partie des richesses de leur pays, pendant que les groupes français se taillaient la part du lion. Non seulement ils ont pu placer leurs avoirs en Europe, mais aussi les utiliser pour soudoyer les hommes politiques français de tous bords. Et ce système mafieux se maintient toujours, plus de 50 ans après. Sur le plan économique, un des éléments les plus nuisibles de cette décolonisation en trompe-l'œil est toujours le franc CFA. Créé en 1945, lui aussi dure jusqu'à aujourd'hui. Il a quand même été rebaptisé au moment de la décolonisation pour paraître plus présentable, mais les initiales ont été gardées. Du coup, donc il est passé de franc des colonies françaises d'Afrique, il est devenu donc le franc de la communauté financière d'Afrique pour les pays d'Afrique de l'Ouest et franc de la coopération financière d'Afrique centrale pour les autres. Le franc CFA est un pilier essentiel de la dépendance économique et financière des États africains et de leur domination par les capitalistes français. En effet, c'est directement l'État français qui contrôle cette monnaie commune à 15 États africains. Ces États africains sont dans l'obligation de déposer une partie de leurs réserves de change à la Banque de France. Le taux de change avec le franc, qui est avec l'euro aujourd'hui, est fixé par l'État français évidemment. Sauf quand les dirigeants français ont décidé autrement. Comme en 1994, quand Balladur dévalua le franc CFA de 50% d'un coup, doublant alors le prix de l'ensemble des produits importés, denrées alimentaires et médicaments pour la population. Pour les exportateurs français des produits africains, ce franc CFA a l'avantage de les mettre à l'abri des fluctuations monétaires et il permet de garder le contrôle du commerce extérieur africain, donc de l'approvisionnement en matières premières. Les entreprises installées dans la zone du franc CFA peuvent aussi rapatrier leurs capitaux à tout moment et sans contrainte. Grâce à tout cela, l'État français a donc gardé tous les leviers nécessaires pour influencer la politique de la majorité des États indépendants, issus de son ancien empire colonial africain. Évidemment, le maintien au pouvoir de ces dictatures, comme le maintien de l'exploitation impérialiste en Afrique, nécessite toujours la présence militaire française. Dès le début, les indépendances ont été octroyées en échange d'accords militaires et de la conservation de bases militaires françaises en Afrique. Sans discontinuité depuis De Gaulle, le pouvoir étatique français a envoyé l'armée faire le gendarme partout dans sa chasse gardée africaine. Pour fomenter des coups d'État, pour renverser les dirigeants jugés trop indépendants, pour soutenir les alliés contre leurs opposants, et surtout aider les dictateurs à résister aux mouvements de protestation des populations spoliées. C'est impossible de citer tous les pays concernés par ces interventions militaires, car on en dénombre pas moins d'une cinquantaine de ces opérations militaires depuis 1960, sans compter celles qui sont restées secrètes. Il est encore une chose que les colonisateurs ont maintenu de force au moment des indépendances, ce sont les frontières tracées par eux. Héritée des conquêtes, elle sépare des peuples, des villages, des familles parfois. Autant de frontières, autant de divisions, autant d'affaiblissements. Car les pays créés de toutes pièces par le colonisateur était la plupart du temps trop petit. De grandes entités africaines auraient eu forcément plus de poids face aux puissances impérialistes. Mais le respect de l'ordre impérialiste passait avant tout par le respect de ses frontières. Alors, bien peu de dirigeants africains eurent ne serait-ce que la volonté de les remettre en cause. Bien entendu, certains régimes tentèrent d'échapper à ce système. On a déjà évoqué Sékou Touré en Guinée. De Gaulle lui fit payer très cher son nom. Il ordonna à tous les cadres français, administratifs et techniques, de quitter le pays dans les 48 heures après l'indépendance. Bien que laissé sans rien du jour au lendemain, le régime tint bon contre toute attente. Il tenta durant plusieurs années de s'émanciper de l'impérialisme français en utilisant les richesses en bauxite du pays. Mais sans industrie pour transformer la bauxite en aluminium, la Guinée se vit contrainte de finir par faire appel aux trusts internationaux et se soumettre à leurs lois. On peut aussi parler de Thomas Sankara, qui dirigea la Haute-Volta de 1983 à 1987. C'est lui qui la rebaptisa Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Malgré la pauvreté, Sankara utilisa la majeure partie du budget du pays pour des campagnes de vaccination, la construction d'écoles ou l'accès des femmes à l'éducation, alors même que la Banque mondiale et le FMI lui refusaient les prêts pour lutter contre la mortalité infantile. Sankara croyait pouvoir desserrer le carcan économique qui étouffait son pays. Il intensifia la monoculture du coton, espérant qu'en vendant le coton à Cuba ou à la Chine, il trouverait une place pour son pays sur le marché mondial. Il ne remettait pas en cause le système capitaliste et la domination impérialiste. Comme tous les autres nationalistes, il comptait sur l'armée pour agir et non sur la classe ouvrière. Il prit même des mesures autoritaires et répressives contre des travailleurs en lutte. Mais le seul fait qu'il ait contesté l'ordre imposé par la France a suffi pour que Mitterrand et son premier ministre de l'époque, Jacques Chirac, veuillent s'en débarrasser. Blaise Compaoré, le second de Thomas Sankara, le fit assassiner le 15 octobre 1987 et prit le pouvoir avec le soutien de la France. Certains régimes ont donc cherché à négocier de meilleurs accords, des meilleurs prix pour leurs matières premières. D'autres ont vu dans les nationalisations un moyen de contrôler leur économie. D'autres encore ont tenté d'échapper à l'impérialisme en s'alliant à l'URSS ou à la Chine et en inventant un socialisme africain. Toutes ces tentatives ont échoué. Même les dirigeants africains les plus hostiles à l'impérialisme, ceux qui se montrèrent les plus honnêtes dans leur tentative de réduire la pauvreté en développant l'économie nationale, ne sortirent pas la population pauvre de la misère. Plus de 50 ans après les indépendances, la voie nationaliste a montré qu'elle était une impasse totale. La plupart de ces pays sont restés des dictatures qui n'ont fait que piller leurs richesses sans développer en quoi que ce soit leur économie. Et tous ces pays, même ceux dirigés par des nationalistes radicaux, restèrent dépendants de la division mondiale du travail telle que l'avait imposée le capitalisme. Dans ces 50 ans, bien des intellectuels qui nous séparent des indépendances, bien des intellectuels africains ont débattu de la question de la responsabilité des Africains eux-mêmes dans la situation du continent. Mais cette question n'a pas de sens, sauf pour des nationalistes bourgeois. Les Africains, mais lesquels? Et quelle Afrique? Celle des bourgeois ou celle des opprimés? En Afrique comme dans le reste du monde, derrière le carnifou de peuple, il y a des classes sociales, aux intérêts opposés. Pour ce qui est des dirigeants africains qui ont pillé et continuent à piller leur pays, bien sûr qu'ils sont responsables. Car c'est le camp qu'ils choisissent dans la lutte des classes qui forge les hommes, pas la couleur de leur peau. Et ceux-là font partie des dirigeants du système. Leur régime autocratique, réactionnaire, féroce, qui se résume parfois à des bandes d'hommes armés, servent à faire accepter aux classes populaires l'exploitation. D'abord pour prélever le profit de l'impérialisme, et ensuite pour se gaver eux-mêmes. Mais il n'en reste pas moins que ce sont les puissances impérialistes qui poussent ces régimes à devenir les bourreaux de leur propre peuple. Et ce sont elles qui leur vendent des armes au plus grand profit des marchands de canons occidentaux. Discuter des responsabilités africaines dans le sous-développement actuel c'est faire croire qu'il existe une porte de sortie dans le système capitaliste. Or, c'est faux. L'impérialisme a définitivement fermé la voie d'un développement économique pour les populations des pays colonisés, et cela depuis bien longtemps. Du 19e siècle jusqu'à nos jours, le capitalisme a façonné le monde entier pour servir exclusivement ses intérêts. Durant la colonisation, il a déformé les économies des pays pauvres en les intégrant au marché mondial pour servir de fournisseur de matières premières ou de débouché aux capitaux occidentaux. Au 19e et au début du 20e siècle, la création de vastes chasses gardées protégées par les appareils administratifs et militaires coloniaux a été indispensable au capitalisme pour piller, exploiter et opprimer. Mais la colonisation n'a été qu'une des formes de la domination de l'impérialisme. Le capitalisme avait commencé son œuvre de destruction avant la colonisation et il la poursuit depuis les indépendances. C'est pourquoi les exploités, les travailleurs, les jobbers comme on dit, les paysans affamés d'Afrique ne peuvent défendre leurs intérêts qu'en combattant le système capitaliste dans son ensemble, car c'est lui qui est la cause de leur misère, aujourd'hui comme hier. Les États nés de la décolonisation ont hérité de ces économies déformées, soumises aux besoins des métropoles occidentales. Et cela a continué. Les cultures d'exportation imposées par la force sous la colonisation s'étendirent bien plus encore après les indépendances, sous la contrainte cette fois de la brutalité des voies du marché. L'État sénégalais, par exemple, força les paysans sénégalais à poursuivre la culture de l'arachide. Aujourd'hui, 60% de la population vit d'une façon ou d'une autre de l'arachide. Cette monoculture intensive a aggravé l'érosion, dévasté les sols qui sont devenus plus sensibles à la sécheresse. En quelques décennies, l'agriculture sénégalaise est devenue incapable de satisfaire aux besoins alimentaires de sa population. En 2008, plus de 22% des enfants de moins de 5 ans étaient atteints de malnutrition. L'arachide, qui compte parmi les principales exportations sénégalaises, a permis à l'État de se procurer des devises, mais elle a dramatiquement augmenté sa dépendance envers le marché mondial. Le comble a été atteint en 1978, quand le Sénégal connut une pénurie d'huile après que le pays ait exporté toute son arachide. Ainsi, l'impérialisme a réussi ce tour de force de faire en sorte que ces pays qui vivent de l'agriculture sont aussi ceux qui manquent le plus cruellement de nourriture. Sur 53 pays africains, 43 connaissent un déficit alimentaire. Et cette dépendance des pays africains agit comme un nœud coulant. Augmenter la production ne dessert pas la corde qui les étouffe, car ils ne font mettre ni de la demande, ni des cours mondiaux des matières premières qu'ils exportent. De plus, ils doivent importer quasiment tous les produits manufacturés des pays impérialistes qui, eux, peuvent imposer leurs prix. Les termes de ce qu'on appelle l'échange inégal n'ont cessé de se détériorer au profit des forteresses impérialistes durant toutes ces décennies. Entre les années 1980 et 1990, la valeur des exportations de cette partie de l'Afrique a baissé de plus de 20%. Et cela, alors même que la valeur des produits manufacturés importés depuis les pays européens ne cessait d'augmenter. Un exemple. Au Mali, en 1960, il fallait exporter 38 kg de coton pour payer l'importation de 100 kg de ciment. En 1972, 12 ans plus tard, l'achat de la même quantité de ciment nécessitait d'exporter quasiment le double de coton. Depuis la décolonisation, l'Afrique noire francophone est aussi devenue pourvoyeuse de richesses minières, pour le plus grand malheur des populations. Au Niger, pays parmi les plus pauvres du monde, le malheur vient de la découverte des gisements d'uranium en 1970, que la COGEMA, devenue depuis Areva, détenu à 87% par l'État français, se mit à exploiter. Areva tire depuis des dizaines d'années d'énormes bénéfices de cette exploitation. Son chiffre d'affaires en 2012 s'élevait à 9,3 milliards d'euros, soit près du double du PIB du Niger. À Arlit, région des mines d'uranium au Niger, l'eau des nappes phréatiques est utilisée pour traiter les minerais d'uranium. Areva se targue d'avoir créé des hôpitaux et de soigner gratuitement ses mineurs, comme elle dit. Mais durant des années, il n'y eut aucun équipement pour faire face à des maladies liées à la contamination radioactive. Le Trust pouvait donc se glorifier de n'avoir recensé que 2 cas de maladies professionnelles liées à la radioactivité en 40 ans, ce qui faisait d'Arlit la région la plus protégée au monde des radiations nucléaires. Au passage, je voudrais ajouter que c'est le pillage de l'uranium nigérien, entre autres, parce qu'il y a de l'uranium dans d'autres pays africains, qui fournit l'électricité en France. Alors, quand tous les nationalistes franchouillards, de Le Pen à Mélenchon, prônent le produire français, ils oublient juste de préciser que pour considérer l'électricité nucléaire comme française, il faut estimer que l'uranium des pays africains appartient à la France. À croire qu'ils n'ont pas vraiment quitté le temps des colonies. Au Gabon, les hydrocarbures sont devenus une manne peu après l'indépendance, ce qui valut au pays une place à part dans la France-Afrique. Dans les années 1960, pour exploiter le pétrole africain dans son ensemble, De Gaulle orchestra la fusion de différents pétroliers français pour former un seul grand groupe, baptisé Elf Aquitaine. Le premier président gabonais, Léon Mba, fut choisi par Foka, et placé quand même sous le contrôle direct de Pierre Biyoma, président d'Elf à l'époque. Son successeur à Léon Mba, Omar Bongo, continua à laisser le Trust français piller le pétrole en échange d'un soutien sans faille à son pouvoir. En 2003, suite à l'énorme scandale de corruption et de rétrocommission qui valut au PDG de Elf de l'époque, Loïc Le Foc Prison, de la prison ferme pour détournement d'argent et corruption, Elf fut absorbée par Total. L'affaire de corruption a été jugée, mais le pillage du Gabon continue. Total garde un pouvoir absolu au Gabon. D'ailleurs, le gouvernement gabonais ne connaît même pas les quantités exactes de pétrole extraites par la compagnie sur son propre sol. L'absence d'industrie locale a rendu les pays africains encore plus dépendants des exportations de matières premières, que ce soit agricoles ou minières. Dans les premières années de leur indépendance, certains États essayèrent de sortir de cette division mondiale du travail héritée de la colonisation. Pour industrialiser leur pays, ils durent emprunter des capitaux sur les marchés financiers. Et dans les années 70, les banques leur prêtèrent d'autant plus volontiers ces capitaux que, dans les économies en crise des pays riches, les capitalistes trouvaient de plus en plus difficilement des placements pour leurs propres capitaux. Alors les banques, des ex-puissances coloniales, prêtèrent, mais avec des clauses spéciales. Les accords de crédit stipulaient que cet argent prêté devait favoriser les entreprises françaises, que ce soit pour l'achat de biens manufacturés ou pour des contrats de construction, ou même pour acheter des armes à Dassault. En une vingtaine d'années, les États africains accumulèrent une dette gigantesque, et le tout sous l'appellation hypocrite d'aide au développement. Ils furent les premiers à faire les frais de la financiarisation croissante de l'économie capitaliste. La dette de l'Afrique subsaharienne passa de 2 milliards de dollars en 1970 à 331 milliards de dollars en 2012. Mais en plus, comme les banques leur imposaient des taux d'intérêt usuraires, ces États eurent à rembourser des sommes représentant le double ou le triple de ce qu'ils avaient emprunté. Alors non seulement ces emprunts coûtèrent extrêmement cher aux populations africaines, mais dans une grande partie des cas, ils ne servirent à rien. Au mieux, ils permirent des constructions utiles aux exportations, c'est-à-dire au grand capital. Au pire, ils aboutirent à la construction d'usines inutilisables, de barrages disproportionnés, de palaces de dictateurs, d'une cathédrale hors norme dans le village natal du Fédouani, et j'en passe. Tous ces chantiers sur un océan de gaspillage, de corruption, de dilapidation des budgets étatiques. Par dérision, on les baptisa les éléphants blancs. Cet endettement contribua à étrangler encore plus les pays africains, surtout à partir des années 1980, quand leurs recettes s'effondrèrent à la suite de la chute des cours des matières premières. À partir de là, ils ne furent plus en mesure de payer leurs tributs aux usuriers internationaux. Alors les vautours des organisations économiques mondiales s'abattirent sur ces pays pour planifier une nouvelle façon de les piller. Ce fut l'ère des PAS, les plans d'ajustement structurel, qui imposèrent des procédures pour dépecer le peu d'industries, de services publics et d'organisations économiques qui existaient dans ces pays. Conformément aux ordres du FMI et de la Banque mondiale, il fallut alors licencier des milliers de salariés dans le secteur étatique, réduire les budgets sociaux qui étaient déjà insuffisants. De nombreux services publics, comme l'éducation ou la santé, s'en trouvèrent dégradés. Les hôpitaux devinrent incapables d'assumer les soins élémentaires. Au Sénégal, le personnel soignant a été réduit de 20% entre 1989 et 1995. Au Cameroun, le salaire des personnels soignants a été divisé par 4 en 1993. Le FMI imposa aussi une vague de privatisation. Dans ce cadre, le franc CFA joua tout son rôle en favorisant outrageusement les entreprises françaises. Au Sénégal, la quasi-totalité des entreprises nationalisées ou créées par l'État furent transférées dans les mains du capitaliste français, à tel point qu'on a pu parler de recolonisation. Avec les privatisations, les coupures d'électricité se sont généralisées. Bien des Africains n'ont pas ou plus accès à l'eau courante dans les villes, et les coupures d'eau se sont multipliées. Mais s'il en est un qui sait transformer l'eau en or, c'est Bouygues, qui contrôle par ses filiales une grande partie des réseaux de distribution d'eau au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Bouygues est aussi présent dans l'exploitation du réseau électrique ivoirien et la production du gaz au large d'Abidjan. Toujours en Côte d'Ivoire, pour 7 millions de personnes, le téléphone, c'est Orange. C'est aussi le cas dans 18 pays, parmi lesquels le Sénégal et le Cameroun. Une grande partie du système bancaire en Côte d'Ivoire est au nom de la Société Générale, du Crédit Agricole, de la BNP et du Crédit Lyonnais. Dans la liste des pillards de l'Afrique, il faut faire une place à part à Bolloré, surnommé le dernier empereur africain. Dans les années 1980, il mit un pied en Afrique en rachetant les entreprises de transport issues de la période coloniale. Puis, il jeta son dévolu sur les plantations, autre héritage de l'époque coloniale. Après, il fit en sorte de se retrouver à la tête des chemins de fer en Afrique de l'Ouest, où il développa systématiquement le trafic des marchandises au détriment des voyageurs. Après les trains, il étendit son contrôle sur la quasi-totalité des ports du golfe de Guinée. Abidjan, Conakry, Pointe-Noire, Lomé, pour n'en citer que quelques-uns. Cette mainmise sur la chaîne de transport a permis au groupe Bolloré d'étendre son contrôle sur l'acheminement de nombreuses matières premières depuis le cœur de l'Afrique. Qui tient les grues tient le continent, expliquait un ancien cadre de l'entreprise. Pour construire cet empire, Bolloré a su user et abuser de la France-Afrique. Un de ses conseillers, par exemple, est Michel Roussin, ancien directeur de cabinet du patron de la DGSE, les services secrets français, directeur de cabinet de Jacques Chirac ensuite, puis ministre de la coopération de 1993 à 1994. Et il a été aussi président du MEDEF Afrique, avant de devenir donc conseiller de Bolloré. Aujourd'hui, Bolloré a donc un empire d'une puissance économique bien plus importante que celle de n'importe quel chef d'État africain. Et un empire prospère de surcroît, car le continent représente 80% de ses profits. Le bilan de toutes ces décennies depuis les indépendances est très significatif de l'exploitation du continent par les capitalistes français. Les richesses arrachées à l'Afrique continuent à être le socle de bien des fortunes de dynasties, comme celle des Bouygues, Michelin ou Pinault, dont le groupe a racheté la Compagnie française de l'Afrique occidentale, la CFAO, mais aussi Total, Areva, Air France, Vinci, Veolia et des banques comme la BNP, la Société Générale ou le Crédit du Nord, sans parler des marchands d'armes. Tous poursuivent le pillage de l'Afrique en s'appuyant sur l'ordre impérialiste mis en place et surveillé de près par l'État français. Pour les capitalistes français, la décolonisation n'a été qu'une forme de restructuration de leur domination. Et on va faire une pause.